Capital sur Radio Grand Ciel, une émission proposée par
Elisabeth Couget
et Christine Afota. Nous prenons la route aujourd'hui pour Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, où Christine vient de faire un très beau voyage. Mais Christine, où se trouvent exactement les Émirats ?
Sur la péninsule d'Arabie, entre la mer Rouge et le golfe Persique, que les Arabes, attention, appellent golfe arabique. Les Émirats sont au nombre de 7 et s'égrènent le long du golfe Persique sur 400 km de côte avec d'innombrables petites îles.
Tout près de l'Arabie Saoudite alors ?
De l'Arabie Saoudite qui borde les Émirats au sud et à l'ouest. À l'est, c'est l'État d'Oman et de l'autre côté du golfe Persique, l'immense Iran.
Et ces Émirats sont combien ?
7 sont donc 7 qui forment depuis 1971 les Émirats Arabes Unis, ou EAU, à l'image de la Fédération des États-Unis. Certains sont connus et d'autres beaucoup moins. Je les cite. Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywan, Fujairah et Ras al-Khaimah.
Il y en a certains bien difficiles à prononcer. Hein. Alors, ils ont choisi Abu Dhabi comme capitale. Voilà un nom facile à dire.
Abu Dhabi, c'est Abu Dhabi. Tout simple. Oui, parce qu'Abu Dhabi est de loin le plus riche et le plus étendu des Émirats. Il occupe 90% du territoire et s'étend sur 68 000 km, c'est environ deux fois la Belgique. La ville d'Abu Dhabi compte 600 000 habitants et l'Émirat 1 300 000.
Alors l'histoire d'Abu Dhabi est toute récente ?
Oui et non. Ces terres de la péninsule arabe ont été colonisées dès l'Antiquité. Par exemple, on a retrouvé lors de fouilles en 1953 50 sépultures qui témoignaient d'une civilisation étonnamment développée et qui prouvent qu'il y avait un premier peuplement humain vers 5000 ans avant Jésus-Christ.
L'Empire perse a dû aussi laisser des traces.
Oui, avec Cyrus II, vers 550 avant Jésus-Christ. Et de cette époque date un ingénieux système de canalisation qu'on appelle les phalages. Et ces canaux millénaires creusés dans le sol permettent toujours l'irrigation aujourd'hui. Et on trouve aussi dans l'émirat d'Abu Dhabi, sur l'île de Sir Bani Yas, les vestiges d'un monastère chrétien. Et ce monastère marquait la limite de l'expansion chrétienne, dont on ne connaît aucune autre implantation à l'est, sur le littoral du Golfe.
Mais c'est l'islam qui va s'imposer.
Les tribus qui peuplent ces terres sont parmi les premières à se convertir à l'islam, puisqu'elles sont proches de la Mecque et de Médine, d'où Mahomet commence la conquête de l'islam en 622, l'an 1 de l'Égypte, de l'ère musulmane donc. Et en 633, les Arabes soumettent le littoral du Golfe.
Que signifie Abu Dhabi ?
Abu Dhabi signifie le père de la gazelle. Abu, c'est le père en arabe. On peut penser à Abba quand le Christ dit Abba, mon père. Dhabi, c'est la gazelle. Ce nom évoque une légende, la légende de la fondation d'Abu Dhabi. Vers 1761, quelques bédouins chassaient une gazelle dans la région. La poursuite dura plusieurs jours. Finalement, la gazelle arriva à marée basse sur une île où les bédouins la trouvèrent se désaltérant à une source. Le site était idéal pour s'implanter et ainsi fut fondée la première colonie baptisée Abu Dhabi. C'est un endroit bien protégé avec des défenses naturelles et les Bédouins construisent là une petite enceinte avec une tour de guet. Un port y est fondé qui se spécialise au début dans le commerce des perles.
La petite cité a grandi.
Elle grandit petit à petit. En 1793, un chef de tribu important s'y installe, Sheikh Bin Diab, qui fait construire une puissante forteresse appelée Qasr al-Hosn. Hosn, c'est le fort, Qasr, c'est le palais, donc le palais du fort. C'est bien un palais si on le compare aux cabanes de palme où vivent alors la plupart des habitants. C'est aujourd'hui le monument ancien d'Abu Dhabi. C'est bien simple, il n'y a pas d'autre choix. Vers 1800, Abu Dhabi est une grosse bourgade dont le port abritait une flotte de 400 navires. C'est aussi l'époque du protectorat anglais qui va durer près de 170 ans. Et on n'est pas très loin, géographiquement parlant, des aventures de Lawrence d'Arabie. Ce littoral, d'ailleurs, s'appelait à l'époque la côte des pirates.
Alors, quel programme ?
La côte des pirates, oui. En 1853, l'Angleterre parvient quand même enfin à faire signer un traité de trêve maritime dans la région, que paraphent aussi Abu Dhabi et Dubaï. Dès lors, la côte des pirates va prendre le nom de Truce States, c'est-à-dire les États de la trêve, ce qui n'empêche pas Abu Dhabi et Dubaï de s'affronter régulièrement jusqu'à se livrer des combats armés.
Alors aujourd'hui, on peut parler d'autres sortes d'affrontements. Une question de prestige ?
Oui, c'est tout à fait autre chose, mais il y a tout de même un affrontement entre Abu Dhabi et Dubaï. C'est à qui possédera le plus grand terrain de golf aujourd'hui, le plus haut gratte-ciel, l'hôtel le plus luxueux. Et sur ce plan-là, Dubaï l'emporte.
Alors, avec la paix maritime, la trêve, le commerce va devenir florissant et l'activité perlière prend son essor.
L'activité perlière, oui, parce qu'Abu Dhabi a d'abord été célèbre pour ses perles, dont on a fait un commerce international. Le port était déjà autrefois une plateforme de transit vers l'Inde et la Chine. À la fin du 19e siècle, on compte 1 000 000 de navires perliers. Les pêcheurs de perles sont nombreux et font un métier épuisant et dangereux. Ils plongent jusqu'à 100 fois par jour en affrontant requins et méduses.
Alors la crise de 1929 va ébranler ce commerce.
Car le prix des perles s'effondre. Et l'arrivée sur le marché des perles de culture japonaise va donner le coup de grâce à l'activité perlière d'Abu Dhabi. La moitié des 10 000 habitants d'Abu Dhabi émigrent alors. Mais en même temps, dans les années 30, commence la prospection du pétrole, source de grands espoirs.
Un vrai cadeau du ciel ?
Eh bien, pour Abu Dhabi, le cadeau du destin, ce n'est pas le pétrole, mais un homme exceptionnel, Sheikh Zayed, qui arrive à la tête de l'émirat d'Abu Dhabi en 1966.
Peux-tu nous en parler un petit peu ?
Sheikh Zayed, né en 1918 à Al Ain, une oasis à l'est d'Abu Dhabi, tout près d'Oman. Il grandit parmi les Bédouins et est profondément attaché à la culture bédouine. Il montre très vite des qualités de dirigeant, soit le sens de l'intérêt commun et de la ténacité. Pour élargir ses horizons, il fait de nombreux voyages à l'étranger. En 1953, par exemple, il se rendit à Paris, qui l'enchanta. Malgré son attachement aux traditions bédouines, il a des qualités de visionnaire et il saisit les opportunités qu'offre à son pays l'industrie pétrolière.
Et c'est lui qui entreprend les négociations qui vont déboucher en 1971 sur la fondation des Émirats Arabes Unis.
Dont il devient le premier président. Son influence est grande et en même temps il reste proche du peuple. Ses audiences attirent beaucoup de gens qui apprécient son impartialité et sa sagesse. Il est mort en 2004 et il est toujours véritablement vénéré par la population.
Alors, quand il arrive au pouvoir en 1966, on trouve du pétrole dans la région.
En 1966, le premier jet de pétrole jaillit du sol. Sans le pétrole, les Émirats seraient encore ce désert en bordure du golfe, peuplé de nomades à dos de chameaux, de pêcheurs et de quelques marchands.
Mais tout le monde n'a pas perçu d'emblée l'importance du pétrole, j'ai l'impression.
Non. Par exemple, on rapporte que dans les années 30, l'émir de Bahreïn se serait écrié « Que ferais-je du pétrole ? Ce n'est pas avec du pétrole que mes gens pourront apaiser leur soif. Ce qu'il leur faut, c'est de l'eau. » On lui proposa donc de forer à la recherche d'eau contre une concession permettant des prospections pétrolières.
Le pétrole va changer la face d'Abu Dhabi. Mais avant d'évoquer cette transformation, je vous propose une pause musicale. Christina Fota comme guide, aujourd'hui nous visitons Abu Dhabi, où en quelques années, on passe du Moyen-Âge à l'ère industrielle.
En quelques années, 1962-1971, même pas 10 ans. Au début des années 60, on atterrissait encore à Abu Dhabi sur une piste de sable. Abu Dhabi était une bourgade venteuse et sablonneuse entre mer et lagune. Les cabanes en bois et feuilles de palmier n'avaient pas changé depuis, et c'était toujours la cité fondée par des bédouins 2 siècles plus tôt. Quelques échoppes éclairées à la bougie qui proposaient un maigre choix de produits comme tissus, dattes, farine, presque pas de légumes. Et l'eau saumâtre était tirée du puits. C'était un trou perdu de 5000 âmes. Et hors de l'enceinte, dans les sables du désert, le fort de Kasr al-Hosn, les habitants vivaient de la pêche, de l'élevage de chameaux et des dattes.
Et c'est ainsi que la décrivait l'explorateur anglais Wilfrid
Tessiger. Voici ce qu'il dit.
En 1948.
Oui, c'est ça. Voici ce qu'il dit. Nous traversâmes la baie qui sépare Abu Dhabi du continent. Et après avoir parcouru encore 15 kilomètres à travers une région désertique, nous atteignîmes une citadelle qui se dressait aux portes du désert, surplombant une petite cité en ruine. Hormis la forteresse, on y trouvait aussi quelques palmiers et une source où nous fîmes boire nos chevaux. Puis nous nous assîmes au pied de la citadelle en attendant que les cheikhs aient fini leur sieste.
Tout ça il y a 70 ans. Hein. C'est une ville assoupie et soudain cette découverte d'un miracle géologique, le pétrole plus le gaz.
À Abu Dhabi se trouvent 10% des réserves du monde, 95% des réserves des Émirats. On produit 2,5 millions de barils par jour. Les rentrées d'argent sont sidérantes, 54 milliards par an.
C'est énorme, je crois qu'ils pourront nous prêter un peu d'argent. Mais ça change maintenant. À partir de ce moment-là, tout change dans leur vie.
Tout change. À partir de 1966, la croissance est effrénée. Et Cheikh Zayed a la sagesse de redistribuer ses richesses. On ouvre les caisses du trésor pour financer des infrastructures, les services publics, les logements. Et presque du jour au lendemain, le petit état côtier passa du 18e au 20e siècle, de l'archaïsme aux techniques de pointe, des haillons aux millions, pour reprendre le titre du livre d'un émirati, c'est-à-dire un citoyen des Émirats, Mohamed Al-Faib.
Alors où se trouvent les centres de forage ?
À l'ouest, sur 200 km vers l'intérieur du pays. Ils sont reliés aux raffineries de la côte par un réseau très dense de pipelines. Et notons aussi qu'au sud d'Abu Dhabi se trouve ce qu'on appelle l'Empty Quarter, le quartier vide. C'est le plus grand désert de sable de la planète. Il y a un mois, une énorme tempête de sable a complètement paralysé le pays.
C'est le pays de l'or noir, en fait.
Exactement, le pays de l'or noir. Mais là encore, Cheikh Zayed investit cette manne inespérée. Dès son arrivée au pouvoir, il développe la capitale, trace des rues au cordeau. L'espace étant très limité sur l'île, il fit d'emblée construire en hauteur. Mais l'air salin et l'humidité eurent vite raison de cette première génération de gratte-ciel qui furent démolis et dont les décombres ont servi à remblayer la côte et à gagner de nouvelles surfaces constructibles sur la mer.
Un peu comme à Monaco.
Aujourd'hui, la ville est hérissée de gratte-ciel aux miroitantes façades de verre.
D'où le surnom d'Abu Dhabi, le Manhattan des Émirats.
Oui, mais le Manhattan, New York n'a qu'un seul grand espace vert, Central Park. Abu Dhabi est doté d'une vingtaine de parcs spacieux, palmiers et verdoyants, parterres de fleurs, apportent à cette architecture ultramoderne une note de fraîcheur et de couleur.
Tout ça réalisé dans le désert.
C'est la fierté de Cheikh Zayed d'avoir vu s'étendre sur son pays jardins, champs et forêts, là où il n'y avait que désert. Depuis 1971, 130 millions d'arbres ont été plantés, sans compter 22 millions de palmiers dattiers. Les milliers de terres arables gagnées assurent 90% des besoins en produits laitiers et en légumes, et on peut même exporter des fruits et des fleurs.
C'est incroyable, hein ? Que visiter à Abu Dhabi ? Le vieux fort, par exemple.
Cette ancienne forteresse, nichée maintenant au cœur de la ville moderne et qui fut érigée en 1793. Pendant 2 siècles, c'était le seul monument sur des kilomètres de côte. On l'appelle aussi le fort blanc, car ses murs sont blanchis à la chaux.
Bien sûr, il y a une mosquée.
Il y en a beaucoup, mais la plus récente, c'est-à-dire la mosquée Cheikh Zayed, colossale et prestigieuse est à voir absolument. Elle est toute de marbre blanc incrustée de pierres semi-précieuses. Elle rappelle, je trouve, les mosquées moghols de l'Inde du Nord ou encore le Taj Mahal. Elle se dresse somptueusement sur la rive avec ses 4 minarets et ses 82 dômes. Elle fut construite de 1996 à 2007 et peut accueillir 40 000 fidèles. Sa cour centrale offre le plus large exemple au monde de mosaïques de marbre. L'immense tapis iranien de la salle de prière couvre plus de 5000 mètres carrés. 7 chandeliers étincellent d'un million de cristaux Swarovski et le plus grand à 10 mètres de diamètre. Bien sûr, pour y entrer, les femmes doivent être couvertes, si possible, de l'abaya, c'est-à-dire une longue tunique noire qui ne dévoile que le visage et les mains.
Que de records dans ce pays. Je suppose qu'il y a d'autres sites incroyables à visiter.
Par exemple, l'Emirates Palace, c'est un hôtel, un immense palace de plus d'un kilomètre de long et son parc planté de 8000 palmiers. Sous son dôme où brillent des carreaux d'or et d'argent, on pourrait placer sans problème la basilique Saint-Pierre de Rome. On trouve 18 000 roses dans des vases qui sont changées tous les 3 jours, plus de 1000 lustres, 190 cuisiniers, et même un personnel tout spécialement attaché au nettoyage des lunettes de soleil. Comme le dit la devise de l'hôtel, chez nous le client ne doit pas se sentir comme chez lui. On y trouve la suite la plus chère de la terre, 15 000 euros la nuit. Contentons-nous, Elisabeth, pour 10 euros d'un cappuccino dont la mousse est tout de même saupoudrée d'or.
Ça fait rêver. Et bien sûr, on peut se perdre dans les vastes centres commerciaux qui sidèrent par leur luxe, comme le Marina Mall.
Oui, c'est vrai, mais pour ma part, je préfère, par exemple, flâner le long de la Corniche, une longue promenade de 6 km sur la côte et ses jardins et fontaines, ou bien faire un tour à l'Heritage Village, un musée de plein air qui évoque le mode de vie traditionnel des Bédouins, ou encore rêver dans le dock des Dhow, c'est-à-dire le port des Dhow, ces embarcations de bois inchangées depuis des siècles. Rêver par exemple à ces grands navigateurs, ces voyageurs, comme Sinbad le marin, alias Abu Obeida au Xe siècle, qui allait jusqu'en Chine. Et on construit toujours ces canaux longs et fins à aviron où pouvaient prendre place jusqu'à 20 rameurs. Aux grandes occasions comme la fête nationale, un public enthousiaste assiste depuis la corniche à de palpitantes courses de Dhow.
C'est à ce qu'on appelle aussi des boutres.
Oui, l'atmosphère dans ce dock est un peu désuète. Elle rappelle une époque révolue et le sol est jonché de copeaux, de morceaux de bois et de clous tordus. Ces Dhow ou boutres pouvaient peser jusqu'à 140 tonnes de bois de teck. Leur voile carrée puis triangulaire permettait de naviguer au plus près du vent. Le tonnage était mesuré au nombre de corbeilles de dattes qu'on pouvait embarquer. Par exemple, pour un voilier de 22 mètres, on pouvait embarquer 660 corbeilles de dattes. D'ailleurs, le repas à bord, c'était du riz aux dattes ou, pour changer, des dattes au riz.
Oui, c'est très varié. Et il doit y avoir aussi de très belles plages.
Pour nous, Elisabeth, direction la Ladies Beach, une des plages les plus renommées, réservée aux dames et aux petits garçons jusqu'à 6 ans. Prenons garde d'arborer des costumes de bain décents. Mais de toute façon, un mur de briques protège des regards curieux. Car si d'octobre à mars, le climat est doux et agréable, la chaleur monte ensuite pour atteindre jusqu'à 50 degrés en juillet et août.
Alors, profitons donc de cette baignade pour écouter un peu de musique. Celle des Mille et Une Nuits ?
Oui. Thank you.
revoici dans les studios de Radio Grand Ciel. Alors que nous étions à l'aube d'un palmier date à Abu Dhabi il y a un instant. Cet arbre des oasis du désert qui est tout un symbole.
Pour dire en arabe « je suis au septième ciel » ou « je suis aux anges », on dit « je suis au-delà du palmier ». C'est dire. Les palmiers peuvent atteindre 30 mètres de hauteur. La date, c'est l'aliment de base. On l'appelle « Umm al-Fakr », la mère du pauvre. C'est une assurance vie pour les longs voyages dans le désert. Le bois de l'arbre est un matériau de construction et ses feuilles servent à confectionner nattes et palmiers. Des palmiers. Le palmier dattier est cultivé depuis 7000 ans et comporte plus de 100 espèces différentes. La teneur des dattes en vitamines est exceptionnelle.
Alors, 7 dattes par jour suffisent à couvrir les besoins d'un adulte en vitamines, il me semble.
En vitamines, ainsi qu'en une cinquantaine de minéraux et d'oligo-éléments. Grâce aux dattes et à leurs vitamines, les marins arabes n'eurent jamais à souffrir du scorbut qui décimait les marins européens. Les dattes ont également de nombreuses utilités thérapeutiques. Le Coran cite 26 fois les dattes. Et il dit par exemple que Marie mangeait des dattes lorsqu'elle attendait la naissance du Christ.
Et on partage toujours des dattes avec le café et le thé.
C'est un symbole de l'hospitalité bédouine qui est légendaire. L'hospitalité, c'est une vertu cardinale en Arabie. C'était une garantie autrefois dans ces immensités arides où la vie était difficile. On souffrait de la chaleur, de la faim, de la soif. On vivait dans des conditions extrêmement rudes.
Mais aujourd'hui, c'est très différent.
Aujourd'hui, les citoyens des Émirats ont une vie plus que confortable. L'État pourvoit à la plupart de leurs besoins. Il y a un excellent système de santé, en grande partie gratuit, des équipements ultra-modernes, l'enseignement est gratuit. L'État d'Abu Dhabi offre même aux jeunes mariés une maison gratuite et 17 000 euros.
Et la condition des femmes ?
Elles continuent certes de s'habiller en noir, avec la baya, et de porter parfois la burqa, qui est un masque de tissu qui ressemble à une grande moustache et qui protège la peau du soleil. Les hommes, eux, sont vêtus d'une longue robe blanche, la gandoura et un foulard ceint leur tête. C'est en fait un univers en noir et blanc. Mais les femmes font des études. Sait-on par exemple que près de 100% des petites filles sont scolarisées à Abu Dhabi, c'est le taux le plus élevé de tous les pays arabes. Les femmes occupent 40% des emplois, elles peuvent conduire leur voiture ou se rendre seules dans des cafés.
Quelle chance de pouvoir y aller seule. On est quand même, malgré tout, on est loin de l'Arabie Saoudite, tout, c'est autre chose.
Bon, certes, 80% des mariages sont toujours arrangés, ce qui ne veut pas dire que ça marche moins bien. C'est un long processus, on fait des visites chez sa promise, des conversations autour d'un café ou d'un thé, pour parvenir lentement à un accord. Mais les Émirats pratiquent un islam souple et tolérant qui est épargné par le fondamentalisme religieux. On y trouve des églises chrétiennes, des temples hindous et sikhs. Il faut quand même dire qu'il y a à Abu Dhabi énormément de travailleurs immigrés et d'expatriés qui forment 90% de la population. Il n'y a que 10% des citoyens de l'Émirat locaux. Le début de l'ère pétrolière a été marqué par l'arrivée massive de main-d'œuvre et de cadres.
Et l'avenir ?
Abu Dhabi a encore des réserves de pétrole pour 125 années d'extraction au rythme actuel de la production. Mais il y a d'ores et déjà un effort sensible de diversification. Par exemple, l'avion à énergie solaire, Solar Impulse, qui s'est envolé tout récemment d'Abu Dhabi pour faire le tour du monde. Les investissements sont énormes et dans tous les domaines. Citons par exemple sur le plan culturel deux musées qui sont en train de sortir de terre, le Louvre et le musée Guggenheim d'Abu Dhabi.
Alors, la chasse aussi existe, non ? C'est considéré comme un
la
sport,
chasse est,
non ?
La chasse est interdite.
Ah bon ?
Les animaux sont protégés, mais il y a à Abu Dhabi, c'est vrai.
Il y a quand même la chasse.
Il y a à Abu Dhabi une longue tradition de fauconnerie. Ces oiseaux, qui d'ailleurs étaient très prisés au Moyen-Âge en Europe, on les trouve sur la cathédrale, par exemple, pour le mois de mai. Le cheikh Zayed lui-même a écrit un livre sur les faucons, « Falconry as a Sport ». La fauconnerie comme en tant que sport, notre héritage arabe. Aujourd'hui, ces oiseaux de luxe, faucons pèlerins, faucons sacrés, faucons laniers, peuvent valoir une fortune jusqu'à 100 000 euros. Un hôpital spécial leur est consacré à Abu Dhabi, avec salle de radiologie, ambulance, soins intensifs. Et sa réputation est telle qu'il soigne désormais les faucons du monde entier. Les faucons sont un symbole de courage, de fierté, d'endurance et ont le privilège d'orner le drapeau national.
Et les chameaux, sont un autre symbole, non ?
Depuis plus de 4000 ans, ils occupent une place majeure dans la vie des peuples d'Arabie. C'était avant un moyen de transport et un fournisseur de laine, de lait, de viande, mais ils inspirent toujours une grande considération. D'ailleurs, chameau et beau ont la même étymologie en arabe. On organise à Abu Dhabi des concours de beauté de chameau, comme l'élection de Miss Chameau. C'est en fait Miss Dromadaire. Non ? Et en octobre s'ouvre la saison des courses de chameaux à Abu Dhabi.
Et pour faire une recette de cuisine, pour finir ?
La cuisine habituelle est assez simple, à base de poisson, de riz, de dattes, avec aussi l'influence sensible de la cuisine libanaise, comme les mezzés et indiennes, et les épices, les galettes de pain. Un dessert qui est apprécié, c'est l'oum ali, le pudding chaud aux raisins secs. Mais pour les repas de fête, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer la recette du chameau farci. Alors, les ingrédients, un jeune chameau, deux ou trois chèvres, plusieurs poulets, amandes, pistaches, cannelle, cardamone et beaucoup de riz en garniture. Recette, épicer et faire cuire les poulets et les chèvres. Puis, farcir les chèvres avec le poulet et le chameau avec les chèvres.
C'est tout
placer
ça.
Le chameau sur des braises dans une fosse fermée, laisser cuire deux jours avant d'ouvrir la fosse, mettre le riz à cuire. Et alors, Elisabeth, bi'ina wa shifa.
Je traduis, bon appétit. Voilà, je crois que nous pourrions proposer ça pour un beau mariage bédouin, par exemple. Quant à nous, nous vous quittons en espérant vous retrouver pour une prochaine émission Capitale sur Radio Grand Ciel. Thank you.